Et au 0892 46 0012.
0892 46 0012.
Le standard des auditeurs.
Présence.
Radio Présence, 15h. De passage à Lourdes.
Nous recevons aujourd'hui dans cette émission une femme inclassable. Maritou Flipeau, bonjour.
Bonjour.
J'ai volontairement repris cet adjectif parce que c'est vous-même qui l'avez employé il y a quelques minutes avant de commencer cette émission. Ah, si je voulais, de façon assez caricaturale, résumer ce que je viens de dire en vous présentant, vous avez été pendant 30 ans militante à la CGT et pendant ces mêmes 30 années, croyante, pratiquante, authentique, et fière de votre foi et en témoigner. Alors nous allons raconter un peu votre histoire, mais auparavant j'aimerais dire que vous êtes de passage à Lourdes avec un groupe, le groupe CAPCO. Le groupe CAPCO, c'est jargonnant, mais si on rentre dans le détail, il s'agit de formation permanente pour la mission ouvrière.
C'est ça.
Et cette formation permanente pour la mission ouvrière, elle est attachée en particulier pour ce qui vous concerne à deux grandes régions, la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, et puis ce qu'on appelle maintenant l'Occitanie.
Voilà.
Qui avant était pour partie Midi-Pyrénées. Voilà.
C'est
de
ça.
La formation permanente pour la mission ouvrière, nous en reparlerons parce que là, on entrera dans le monde de l'action catholique. La CE, la JOC, la CO. Mais vous, Maritou Flipeau, comment est-ce possible que vous êtes maman, vous avez exercé un métier d'éducatrice spécialisée, en particulier dans un monde dur, difficile, la psychiatrie pour les enfants et les adolescents. Comment se fait-il que vous ayez pu être pendant 30 ans cégétiste ? Je me permets ?
Je vous en prie.
Et en même temps, je le disais, authentique croyante, chrétienne,
oui.
Catholique.
Bien sûr. Mais il faut vous dire que de 0 à 20 ans, j'ai vécu en pays de chrétienté, famille chrétienne, un oncle qui est prêtre et qui est mon parrain. J'ai déménagé de ville en ville parce que mon père déménageait pour son travail et nous étions toujours reliés à la paroisse. J'ai été Jeannette, âme vaillante, croisée, etc. Scout, guide de France, Jeannette, au gré des déménagements. Donc j'ai découvert une nouvelle dimension de mon expérience chrétienne quand j'ai rencontré la JOC. La jeunesse ouvrière chrétienne, j'avais déjà 20 ans, et c'était en Gironde, et c'est parce que j'étais à l'école d'éducateurs, et nous étions considérés comme des travailleurs en formation, et je suis moi-même issue du monde ouvrier. Et il y avait des choses que je ne comprenais pas dans mon environnement social. J'ai été toujours à l'école catholique, j'ai eu toujours des premiers prix en instruction religieuse. Et j'ai été la première fois déléguée d'un groupe quand j'étais en seconde et que Monseigneur Mazy est arrivé, qu'il a voulu faire une enquête sur comment évoluer la catéchèse dans les lycées de l'enseignement privé catholique. Et j'ai été déléguée à ce moment-là. Et voilà, et ensuite, eh bien, je suis toujours finalement continuée dans cette recherche.
Je vous ai prénommé Maritou, c'est votre prénom réel ou vous appelez
Marie-Thérèse.
Marie-Thérèse.
Voilà, oui.
Donc, Maritou Flipeau, pendant 30 ans, vous êtes syndiquée.
Oui.
À la CGT.
Oui.
Et pourquoi ? Quel est le facteur déclenchant ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous syndiquez ?
Oui. Bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses pour soi qui ne vont pas. Alors, par exemple, pendant la formation, on était invité à partir en stage et nous n'avions aucun frais de déplacement. Quand on n'a pas de revenus, c'est difficile. Et donc, j'étais aînée de famille nombreuse. Mon père venait d'avoir un infarctus. Donc, je me suis tournée naturellement vers une démarche pour obtenir ces frais de déplacement. Et ensuite, eh bien, je suis restée attachée à cette manière de travailler. Et ça a permis que je sois désignée dans cette instance départementale où il fallait une éducatrice sur un observatoire de l'évolution de la psychiatrie. Et c'est de là que je suis re-rentrée dans l'hôpital 20 ans après, en quelque sorte, du point de vue militant, en responsabilité, et que je suis devenue secrétaire générale du syndicat à l'issue d'une action qui a permis de ne pas démanteler cet hôpital, l'hôpital de Cadillac.
Donc vous êtes celle qui était devant pour défendre cet hôpital qui a été maintenu.
Surtout qui a rassemblé. Je suis très fière de ça. On a pu avoir d'une part une intersyndicale totale, c'est-à-dire celle des médecins, ce qui est quand même pas courant, avec les trois syndicats représentatifs des salariés dans l'hôpital. Et surtout, une assemblée générale unie. Je crois que c'est aussi, ça fait partie du charisme qui se travaille en ACO, où nous avons l'habitude de travailler dans le regroupement. C'est-à-dire que Jésus-Christ et l'Esprit-Saint sont cachés dans les dynamismes que les gens mettent en œuvre quand c'est pour le bien commun. Et là, je rejoins le thème que nous travaillons cette année. C'est pas d'aujourd'hui.
On y reviendra à ce thème que vous travaillez cette année. Marie-Thou, on reste un peu sur votre histoire, mais on serait tenté de croire qu'un chrétien s'engage plus aisément dans ce qu'on appelle, alors je ne sais pas ce que vaut cette typologie, mais le syndicalisme, le réformisme. Alors la CGT, elle est plutôt classée dans un syndicalisme de combat. Vous-même, vous sentez un peu combattante?
Moi, je me sens... Oui, c'est-à-dire que, vous savez, un hôpital, c'est plus de 50 métiers. Je crois que c'est plus... Moi, ce qui m'a touchée dans la CGT, c'est certes une position fondamentale qui négocie pas avec les tenants de l'argent pour eux, pour l'argent, mais plutôt d'œuvrer pour que la répartition, elle se fasse le mieux possible entre ceux qui en ont besoin, d'une part. Et d'autre part, eh bien, il y a tous ces outils... que sont les conditions de travail, que sont les bonnes relations dans un hôpital. Et on fait de la médiation quand on est responsable syndical. Donc, le rassemblement... La CGT, pour moi, ça fait longtemps qu'elle se définit non plus comme à l'avant, pour mener des combats fondamentaux, voilà, si vous voulez. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est que des gens pacifiquement se réunissent pour être intelligents, pour faire avancer les causes justes. Donc moi, c'est plutôt cet aspect-là que j'ai été amenée à rencontrer, à mettre en œuvre avec d'autres. Et parfois, ça ne se passe pas tout seul. Enfin, ça veut dire qu'on laisse des plumes, qu'on préfère l'unité à défendre seulement ses couleurs. Et ça, c'est très intéressant comme exercice.
Vous n'êtes plus syndiquée aujourd'hui ?
Si, je suis toujours syndiquée, mais je ne mène plus d'action comme avant, parce que j'ai arrêté exprès pour ça. Parce que je prenais trop de temps pour... j'avais besoin de redisposer de ma disponibilité globale. Voilà.
Mais dans votre vie de foi, est-ce que le syndicat n'est pas devenu votre nouvelle église, entre guillemets? Je me permets de vous
provoquer.
Mais
vous avez raison de poser la question. C'est des questions qui se posent. Moi, je crois que ce qui est original dans l'action catholique ouvrière, c'est de faire révision de vie. C'est-à-dire, l'action que je mène, par exemple, dans mon syndicat, je la confronte avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, et je la mets aussi en débat devant d'autres qui ne sont pas forcément engagés comme moi. Puisqu'en ACO, vous avez des personnes d'autres syndicats, ou d'autres sensibilités, ou d'autres démarches, par exemple, dans la consommation. Vous voyez ? Donc, c'est ce que nous appelons le regroupement. Et nous croyons que l'Esprit-Saint travaille la patte humaine et que ce n'est pas de se taper dessus qui fait avancer les choses, mais de chercher l'Évangile dans tout ça.
De toutes ces années, il vous reste quoi? Vous disiez, bon, je suis heureuse que, par exemple, l'hôpital ait été maintenu.
Oui.
Il vous reste quoi de toutes ces années de combat, entre guillemets?
Oh, bah écoutez, beaucoup de...
Des amitiés, sans doute.
Bien sûr, beaucoup d'amitiés. J'ai été très heureuse de quitter l'hôpital en pouvant être accueillie dans tous les services et par tous les métiers. Ça, c'est formidable. Et de sentir la vie d'un hôpital qui est un grand corps, de pas accepter qu'on en coupe un morceau, c'est resté comme, je vais vous dire, une des traductions de cette expérience, c'est que je suis devenue la présidente d'une association qui cherche à empêcher que Ford International ferme une usine à Blanquefort, qui est la seule usine en France. Alors, ce n'est pas du syndicalisme, c'est faire vivre la dimension des usagers, des citoyens, des voisins, des amis, des salariés de l'usine, de l'extérieur, et de mener des actions spécifiques, rassembleuses. Vous voyez, c'est cet esprit que j'ai gardé.
On a l'impression, à vous écouter, Marie-Thou Flipeau, que vous ne pouvez pas rester chez vous à cultiver votre jardin. Il vous faut absolument aller à la rencontre des autres.
Il y a quelques fleurs, quand même, dans mon jardin.
Le thème qui vous rassemble à Lourdes, c'est dans la prise en compte des périphéries, chemin de la mission, discerner un avenir pour le bien commun.
Oui.
Nous y reviendrons hein, sur ce que vous vivez là, dans ce groupe. Mais sur ce thème, en lien avec ce que vous avez vécu professionnellement, est-ce que le monde psychiatrique n'est pas une vraie périphérie lourde,
si.
Difficile?
Aussi, bien sûr que oui.
Vous y avez œuvré, vous, comme éducatrice.
Oui, oui, tout à fait.
On sait combien ils sont mis à l'écart, incompris. Mmh. On prononce parfois des noms de maladies, schizophrénie, que sais-je, qui font peur. Vous avez côtoyé ces enfants, ces adolescents en grande souffrance.
Oui, oui, oui. Mais vous voyez, y compris l'action qu'on a menée, elle a pu se mener avec les usagers de l'hôpital. Parce que ça a permis aussi à des gens qui ont besoin de faire appel parce que quelqu'un de leur famille a besoin de soins, ou bien ils ont un voisin qui a des comportements qui sont difficiles à supporter. Et quand on a mené cette action, eh bien, tous ces publics-là qui sont sur le territoire de l'hôpital, dans toute la grande rive droite de Bordeaux, jusqu'à l'Aréole, jusqu'au sud, il n'y a pas de... Comment dire ? Tout ce qu'on peut dire sur la folie, en même temps, s'humanise. C'est-à-dire que si c'est mon voisin qui est malade, ou si c'est quelqu'un de ma famille, ce dont j'ai besoin, c'est qu'il y ait un accompagnement qui le soigne, lui, et qui me permette de rester en relation avec lui. Et là, on est dans une catégorie de la théologie. Aucun être humain n'échappe à la proposition de la relation que Dieu propose. Et nous, ben, nous sommes invités à ne pas fuir même quelqu'un de difficile. J'ai connu des situations, évidemment, de toutes sortes.
Oui, mais et pour certaines, désespérantes.
Désespérantes, c'est pas vrai non plus. Parce que c'est un chemin. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées tout au long de leur vie. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a besoin de maintenir des services, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se relever parce qu'ils sont cassés. Mais l'évolution de la psychiatrie a dit aussi, a montré qu'il est mieux de les accompagner chez eux, parfois, que de les maintenir hospitalisés, alors qu'ils ont aussi des moyens de vivre, de s'exprimer, à condition d'être bien accompagnés. Donc c'est ça la démarche de secteur. Mais il faut aussi qu'il y ait des lits. Et donc pour pouvoir y retourner quand il y a besoin de faire un break ou de réadapter un traitement.
Nous allons nous arrêter quelques instants, Marie Touffe-Lippot.
Oui.
Juste après la pause, nous reparlons un peu de votre trajectoire, mais nous nous attachons surtout à regarder de près ce que vous vivez à Lourdes, puisque ce groupe CAPCO, qui s'intéresse à la question de la formation permanente pour la mission ouvrière, ACE, JOC, ACO...
Et les prêtres qui travaillent avec nous.
Les religieuses, les diacres.
Et les diacres aussi.
Rassemblés, vous êtes un groupe de 43 personnes de passage à Lourdes.
Oui.
Nous en parlons juste après ceci.
Merci.
Présence. Tous les dimanches, entrez dans les plus grands monastères et joignez-vous à la prière séculaire des moines. Dimanche grégorien avec Pierre Loiret, tous les dimanches à 6h. De passage à Lourdes.
Merci Marie Touffe-Lippot de prendre un peu de temps, dans ce temps que vous avez normalement choisi de consacrer à Lourdes, à la formation permanente pour la mission ouvrière.
C'est ça.
Puisque votre groupe CAPCO, en particulier sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, est réuni à Lourdes, 43 personnes. Il y a des prêtres, des religieuses, des diacres, également bien sûr des laïcs engagés qui sont là présents pour recevoir une formation.
Oui, dans laquelle ils sont acteurs aussi.
Ah, alors il faudra nous expliquer.
Oui.
Mais juste avant de parler de cela, pour faire la transition avec ce que nous disions dans la première partie de cette émission, j'aimerais que vous nous répondiez à cette question. Est-ce que vous trouvez que notre société a généré un peu plus de folie encore que par le passé ? Est-ce que vous avez été dans cet univers, vous, de la psychiatrie ?
Oui.
On a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui déplombent, de plus en plus d'enfants qui sont en grande difficulté. Mmh. Non pas aux difficultés matérielles, mais difficultés psychiques. Quel est votre regard, tout simple, là-dessus, vous qui avez été animatrice spécialisée en hôpital psychiatrique?
Oui. Ben, vous savez, je crois qu'un mouvement comme la JOC se rend compte aussi de cette évolution-là, parce que, par exemple, c'est dans une autre région que les nôtres ici, mais la réflexion a été menée. les jeunes de la JOC sont des jeunes du monde ouvrier, des jeunes souvent dans des situations précaires, et ils n'ont pas tout à fait le même profil que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, les accompagnateurs sont invités aussi à se former pour discerner ce qui relève du psychique, de ce qui relève de la pédagogie de la JOC et de l'accompagnement d'adultes avec des jeunes pour les aider à prendre leur chemin. Cette année, ils sont sur la question de leur dignité au travail, par exemple. Donc là, c'est déjà des jeunes qui seraient dans un chemin par rapport au travail, voire en lycée professionnel, hein, puisque... Mais il y a aussi des jeunes qui ont des parcours qui sont très compliqués. Et du coup, pour les adultes qui les accompagnent, c'est un nouveau type d'accompagnement qu'il faut qu'ils réfléchissent. Donc ça rejoint ce que vous dites.
Donc cette société qui nous broie un peu, qui nous...
Oui, et en particulier quand dans les familles, il y a déjà beaucoup de soucis antérieurs à leur adolescence et où ils sont en difficulté pour oser se situer par rapport à leur propre chemin.
Est-ce que la question que vous vous posez là en ce moment à Lourdes, c'est que nous dit le pape? Alors que nous dit l'évangile, mais que nous dit le pape, notamment à travers cette encyclique Laudato aussi,
oui.
Ouais, bon, qui fera date, qui a fait déjà date, disons-le. Est-ce que c'est aussi ça votre question, ou est-ce que vous vous laissez interroger par le pape François?
Tout à fait. Nous sommes interpellés par toute la démarche de son encyclique et en particulier le fait de cette originalité où il noue des choses qui n'étaient pas nouées, reliées jusque-là, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'écologie. Et en particulier, il associe l'écologie sociale à l'écologie climatique ou à l'écologie économique. Donc, le fait de pouvoir dire au départ que tout est donné, comme dans la Genèse avec la création, et que l'homme ait pu se tromper dans sa manière d'interpréter sa responsabilité, s'il domine la terre au sens de se l'accaparer, eh bien, ça, ça ne va pas. Et ça donne effectivement des dégradations, un non-respect, et de l'homme, et de la nature. Donc, ensuite, quand il dit que tout est lié, on fait effectivement le lien entre les choses qui relèvent du travail, des droits sociaux, de la solidarité et le respect du développement qu'on peut avoir s'il est durable, s'il ne s'appuie pas d'abord sur le surarmement ou s'il préfère quand même aider à l'agriculture en la laissant vivre et non pas en la subventionnant uniquement. Ou bien, voilà. Et puis le tout est fragile, eh bien c'est toute notre humanité qui est fragile. Il n'y a pas de plan B pour la planète. Donc maintenant qu'avec le XXe siècle, les hommes ont fait l'expérience qu'ils peuvent s'autodétruire, il faut choisir la vie. Et choisir la vie, c'est ce que nous propose l'Évangile. Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors, avec cette manière de relier, le pape aussi insiste sur ce qu'il appelle l'écologie intégrale. Et qui prolonge ce que le pape Paul VI avait déjà dit par rapport au développement intégral de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes. Donc en fait, il adapte pour aujourd'hui les fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église qui sont au travail depuis plus de 100 ans.
Donc tout est donné, tout est lié,
tout est fragile. Oui.
Tout est donné, c'est-à-dire ne nous trompons pas, nous ne sommes pas dominateurs mais serviteurs de ce qui nous est donné. Tout est lié, c'est l'effet domino, c'est-à-dire on touche ici et on peut avoir des conséquences graves là-bas.
D'accord, oui.
Et tout est fragile, c'est notre condition, c'est l'humilité que nous devons avoir.
C'est ça.
C'est pas mal de résumer une encyclique en trois phrases comme ça.
Et la fin, bah oui, mais c'est passionnant hein, de faire ce travail. Nous avons travaillé toute l'année. Et alors sur la fin, justement, le dernier chapitre, c'est tout à fait aussi pédagogique, c'est dans sa manière au pape François aussi. Hein. Mais ça nous invite à la conversion. Donc, la remise en question individuelle et collective. Donc, ça engage aussi à repartir dans l'action. Et nous avons, en théologie, puisque moi, je suis dans un atelier théologie, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont en philo, en sociologie et en Bible. Donc, sur le même thème, sur le même axe de réflexion.
On le rappelle, hein, cet axe de réflexion, c'est dans la prise en compte des périphéries, chemin de la mission, discerner un avenir pour le bien commun.
Oui. Et donc, il
ça
nous
peut,
a...
c'est un peu complexe.
Tout à fait, tout à fait. Mais le pape réussit à dire simplement les choses complexes. Et ça donne aussi une perspective. Parce que qu'est-ce que c'est le bien commun? Donc ce matin, on avait un intervenant en sociologie qui nous a décodé un peu les manières organisées du bien commun. C'est-à-dire, ben, par exemple, l'accès à l'eau, la façon dont c'est géré, la façon dont c'est distribué, la façon dont ça a un coût, comment le coût évolue, etc. Donc, il y a des choses qui sont très concrètes. Et puis, ça, c'était pour la sociologie. Il y a aussi, hier, avec le frère dominicain Gilles Danroc, de Toulouse, qui a aussi une grande expérience de Haïti, où il a même représenté le pays dans la délégation à la FAO, par rapport à la lutte contre la faim. Donc, lui, il nous a fait de la théologie fondamentale, très argumentée sur ce que je commençais un peu à dire tout à l'heure, de sa lecture de Laudato Si, où il ne paraphrase pas, mais il met en perspective avec les enjeux de la vie par rapport à la mort et par rapport à l'Évangile qui propose et la résurrection. Dès lors qu'on se parle, dès lors qu'on est en dialogue, là où on pourrait se taper dessus. Donc une manière de lutter par rapport à la violence qui transforme en force ce qui a besoin d'être mutualisé. Mmh. Voilà, donc ça, pour résumer son intervention sûrement que... Et cet après-midi, il y a la Bible, c'est-à-dire, je ne sais pas, puisque je n'ai pas lu le texte de Michel Garat, qui lui est de Bayonne, et qui va certainement ben, peut-être partir de la Genèse et revisiter aussi d'autres textes. Et puis la philo a aussi réfléchi sur le bien commun d'un point de vue plus philosophique. Les ateliers, eux, ont cherché dans l'histoire de la philosophie, comment on parlait du bien commun depuis Platon. Et puis, voilà, Christian Alexandre, qui lui est de Bordeaux, a un peu donné des clés pour typer ce qui relève plus de l'éthique, ce qui relève plus des valeurs, ce qui relève plus du droit, puisqu'il y a une partie de droit dans tout ça.
Donc ce groupe de 43 personnes est en formation.
Oui, hein. Oui, oui.
Formation permanente pour la mission ouvrière, donc un lien très fort évidemment avec l'action catholique. Il y a de nombreuses générations hein, qui ont grandi avec l'action catholique, vous-même.
Oui.
Que devient-elle cette action catholique? Comment se porte-t-elle? Bon, elle est très diverse. Hein. Oui. Il y a l'action catholique des enfants, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. La CO, c'est l'action catholique ouvrière.
Oui.
Il y a d'autres mouvements
d'action. Il y a d'autres mouvements avec lesquels...
Comment ça va pour l'action catholique?
Eh bien, ça va bien, moi, je dirais. Alors, par rapport à du nombre, ça aussi, on l'a réfléchi hier. Le quantifiable ne nous est pas favorable.
Oui, il y a moins de monde.
Voilà. Mais la démarche qualitative qui est en cause, elle est très intéressante et elle est très utile. Et à chaque fois qu'elle est proposée, elle reçoit une adhésion. Là, je vous dis, c'est 12 personnes de Lormont qui habitent en habitat collectif. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Mais ils ont tout de suite entrepris de parler de leur vie, qui passe par le problème des poubelles. Mais aussi de « je ne peux pas ouvrir mes volets parce que je suis chez le voisin, parce qu'un bâtiment a été construit tout près du bâtiment où j'habite. »
Donc toute la question du bien vivre ensemble.
Absolument. Mmh. Et du coup, on avait aussi une prière qui, à un moment donné, a fait arrêt sur l'échange pour reprendre ensuite la parole en s'appuyant sur les contenus de cette prière qui réadresse à Dieu les choses qui sont en cause dans le partage. Donc... et là, la proposition, elle est faite directement entre croyants, je vais dire. Même si tout le monde autour de la table n'est pas de la même nuance de sensibilité chrétienne. Mmh. Voilà.
Marie Touflipeau, vous vivez cette action que vous menez depuis des années, donc cet engagement en famille
Oui.
Parce que... Quel engagement tout de même.
Oui, oui.
Ça
oui,
vous a
oui,
pris
oui.
de l'énergie, du temps.
Oui, et ça fait vivre.
Mobilisé entièrement.
Et ça fait vivre. Et ça ouais. fait vivre. Oui. Oui, oui. Bah, écoutez, oui. Déjà, si j'ai fait une formation en théologie depuis plus de 20 ans, si, et je la continue, donc c'est que mon mari est d'accord, par exemple.
Et il est à Lourdes.
Il est à Lourdes aussi. Oui, oui. Je crois qu'on est le seul couple ensemble là, mais d'autres personnes ont un mari ou une femme. Mais il a rejoint lui un atelier philo. Et il est accompagnateur adulte de la JOC, par exemple. Mmh. Et il a aussi des responsabilités dans une association qui cherche à construire un foyer pour les marins. Parce que les marins, s'ils n'ont pas à terre un petit pied, ils ne peuvent pas communiquer avec leur famille, par exemple. Nos enfants, à leur manière, ils sont chacun aussi dans une forme d'engagement.
Ils ont hérité de tout cela aussi, d'une certaine
façon. Je suppose, oui, qu'ils en ont pris quelque chose, oui.
Un fils agriculteur.
Oui.
Et puis, vous avez un fils prêtre, ouvrier.
Oui, oui, en tout cas, qui est dans le projet en cours de se mettre en œuvre.
Bravo. Et puis, un fils de 42 ans.
Oui,
qui
est porteur des handicaps intellectuels, oui.
Voilà.
Néonatal, voilà, ça fait partie... une épidémie de pyocyanique à la maternité, parce que la barrière qui normalement prévient les accidents des maladies nosocomiales, au bout d'un an de la maternité, qui était toute neuve, bon, ça s'est révélé insuffisant et toute la maternité était infectée.
Donc il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été frappés,
oui,
de la même façon.
Oui, oui, oui. Oh. Il n'avait pas pu être hospitalisé, tous les lits de pédiatrie étaient occupés.
Il a 42 ans et il s'appelle
Damien.
Damien.
Et il est en pleine forme,
bon,
à sa façon.
Merci beaucoup pour cet échange, Marie Touflipo. Je rappelle que vous êtes responsable de CAPCO. CAPCO, c'est donc ce groupe qui s'occupe de formation permanente pour la mission ouvrière, la CE, la JOC, la CO, des mouvements d'action catholique. Et vous êtes de passage à Lourdes au sein de ce groupe du 43 personnes. Merci, merci pour cet échange. Au revoir.
Merci beaucoup à vous.
Passage à Lourdes.
Énigmes, codes et chemins secrets, pièges et portes d'eau. Viens mener l'enquête au labyrinthe de Merville. Rejoue les grandes énigmes de l'histoire et décroche ton diplôme d'enquêteur dans le plus grand labyrinthe de buis d'Europe. À 20 minutes de Toulouse, une aventure pour petits et grands dans un cadre historique d'exception. Labyrinthedemerville.com.
5 radios. Un seul nom, Présence, la radio chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin.
Sempre per colere te, Lord. Christ, Saint-Marie.